Le secteur du bâtiment est le second secteur émetteur de gaz à effet de serre en France. La recherche de nouveaux matériaux moins gourmands en CO2 constitue une réponse pour réduire la facture carbone du secteur. Mais un matériau décarboné l'est-il vraiment s'il est produit à l'autre bout de l'Europe? L'empreinte carbone liée au transport des matériaux ne doit pas être négligée. Les entreprises doivent ainsi réfléchir non pas seulement à l'innovation en termes de produits, mais également en termes de procédés, pour proposer un maillage territorial diminuant les kilomètres entre lieux de production et lieux d'utilisation. Nous sommes allés à la rencontre de Batipac, une entreprise nantaise qui propose un produit innovant pour répondre aux enjeux de la fabrique de la ville, mais qui a aussi réfléchi à comment diffuser ce produit dans toute la France en essayant de réduire au maximum le nombre de kilomètres parcourus. Batipac est une société vendant des panneaux isolants en carton, un matériau isolant recyclé et recyclable qui s'appuie sur un maillage territorial fin pour l'approvisionnement en matières premières, le carton. En effet, Batipac travaille avec une entreprise de recyclage du carton qui a des unités de production partout en France. L'approvisionnement et la production des panneaux isolants se fait au plus proche des lieux d'utilisation. Pour cela, l'entreprise a développé une ligne de production légère, s'appuyant sur les établissements et services d'aide par le travail, ou ESAT. Ainsi, l'entreprise réduit son empreinte carbone, tout en permettant à des personnes éloignées du travail de se réinsérer. Pour découvrir cette démarche innovante, je vous invite à écouter le podcast qui suit. Bonne écoute.
Une ville en pleine expansion.
Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités.
Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle?
C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain.
On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on recycle pas bien les téléphones.
And perhaps the defining trend of the 21st century is population growth.
On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité.
Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès.
Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense.
Ce plan est un plan que le public nantais peut venir voir.
Il s'agit du plan de sauvegarde de Nantes.
Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution.
On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise.
Bonjour, donc nous sommes aujourd'hui avec Batipac à Nantes, dans leurs locaux, et donc je suis avec Guillaume de Navacelle. Guillaume, est-ce que tu peux te présenter?
Bonjour Camille, je suis architecte DPLG de formation. J'ai travaillé une douzaine d'années en suivi de chantier dans des agences à Paris, Marseille, puis Nantes. J'ai ensuite basculé quelques années en tant qu'expert conseil construction à la SMA BTP. Et je me suis ensuite formé aux matériaux biosourcés. Paille, chanvre, terre crue, carton, etc. Et j'ai intégré Batipac il y a un an et demi bientôt pour être directeur technique et développer le matériau, les produits auprès de la maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et professionnels.
Est-ce que justement tu peux nous parler donc de ce produit qui est donc pour nos auditeurs et auditrices qui ne peuvent pas le voir, donc c'est des cartons, des couches de carton collées entre elles qui servent d'isolant.
C'est à peu près ça. Ce sont des panneaux autoportants qui font 3 mètres de haut, avec des largeurs différentes, soit 55 cm, soit 1,20 m, et des épaisseurs de 5, 10, 15, 20 ou 25 cm d'épaisseur. Ils sont constitués de plaques de carton qu'on appelle des triples cannelures. C'est-à-dire que la plaque arrive déjà formée avec 3 ondulations déjà collées. Elles nous sont fournies par un industriel qui s'appelle DS Smith Packaging, qui est le leader européen du recyclage et de la fabrication de papier carton, et qui est notre partenaire depuis plus de 10 ans maintenant. Et ces plaques de carton sont assemblées entre elles par collage pour obtenir l'épaisseur souhaitée. Donc, par exemple, pour un panneau qui fait 5 cm d'épaisseur, on va mettre 3 plaques de triple cannelure et chaque triple cannelure faisant 13,6 mm d'épaisseur. Et une fois qu'on les a assemblées, on va les envelopper dans une membrane en polypropylène qui va permettre à la fois de maintenir l'air qui est à l'intérieur des ondulations immobiles, car c'est l'air qui est immobile qui rend le panneau isolant. Le meilleur isolant, c'est de l'air immobile, justement. Et ça va permettre de protéger les panneaux de l'eau et de l'air.
Et donc, ces panneaux, ils sont utilisés comme isolants dans des murs, dans des planchers, dans des toits?
Alors, ils sont utilisés comme éléments constitutifs de la paroi, pas seulement comme isolants. Ils sont isolants thermiques, phoniques et acoustiques, mais également constitutifs du mur. On va les mettre dans une ossature bois pour fabriquer des murs porteurs. On va les mettre dans des planchers, dans des toits, dans des cloisons, toujours en ossature bois, sachant que c'est l'ossature bois qu'on va calculer par note de calcul. Les panneaux n'ont pas de vocation porteuse à proprement parler. Et on peut également mettre ces panneaux en isolation thermique par l'intérieur ou par l'extérieur, ou en doublage de sol. Donc ce sont des panneaux qui sont vraiment adaptés pour la construction neuve, mais aussi la rénovation, notamment la rénovation thermique, qui est très à la mode ces temps-ci.
Donc pour nos auditeurs et auditrices, en fait, c'est des grands cadres en bois, c'est des tasseaux, j'imagine.
Alors, ouais, c'est pas tout à fait des tasseaux, mais c'est ça. En fait, le charpentier va monter son ossature bois. Donc, il va créer une lisse horizontale en bois basse, une autre haute, et il va mettre des poteaux en bois entre ces lisses. Ces poteaux en bois, ce sont des montants qui font 145 mm par 45 de section, qui ont un anthrax de 60 cm. Ça, c'est tout à fait classique. C'est ce qu'on appelle le DTU 31.2 ou les règles de l'art. Sauf qu'au lieu de mettre après une laine minérale ou tout autre produit, il va mettre en œuvre le panneau IPAC à l'intérieur de son ossature. Et c'est le même principe pour les planchers et pour les toits. On va avoir une structure bois et on va mettre en œuvre le panneau IPAC dedans.
Donc, à IPAC, ça fait plus de 10 ans que vous avez commencé à commercialiser ce produit. Est-ce que vous pouvez nous donner tu peux nous donner d'ailleurs des exemples de projets que vous avez fait
Alors, Batipac existe depuis 12 ans et notre premier projet a été la construction d'une maison, donc ossature bois plus IPAC, à Belle-Île-en-Mer. Donc, une maison qui prend les vents depuis plus de 10 ans maintenant, qui prend la pluie, l'humidité, qui a très bien vécu. On est d'ailleurs sorti de ce qu'on appelle la décennale, l'assurance décennale qui est une assurance obligatoire dans la construction. Donc, on a commencé par des maisons individuelles, des extensions avec des maîtres d'ouvrage, des clients qui étaient vraiment concernés par ces questions de changement climatique, d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre, de stocker du carbone et qui croyaient à nos panneaux en carton, recyclés et recyclables d'ailleurs. Et donc, on a commencé comme ça. Puis après, on a fait des bureaux. Là, on est sur des maisons en bande pour un bailleur social en Bretagne. On a déjà fait des établissements qui reçoivent du public. Une extension de cantine scolaire il n'y a pas longtemps à La Roche-sur-Yon. Donc, on s'adresse vraiment à tout type de bâtiment, que ce soit en neuf, en réno. Sachant que je précise que nous sommes fabricants du panneau et c'est vraiment le charpentier ou l'entreprise de construction qui va mettre en œuvre ces panneaux dans son bâtiment, dans son chantier. Oui, nous, on fabrique simplement le panneau.
Vous faites que les panneaux et ensuite vous vendez le produit. Et tout à l'heure, avant qu'on commence le podcast, tu me disais que un des avantages c'est que ça pouvait être, c'était construit hors dalle de béton, donc sur des pieux. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs et auditrices
Alors l'intérêt de nos panneaux, c'est qu'ils vont se mettre en œuvre dans une ossature bois, comme je disais précédemment, et cette ossature bois peut être préfabriquée en atelier et montée ensuite par pan de mur ou pan de toiture ou de plancher sur le chantier. Mais ce qu'on peut faire aussi, plutôt que d'avoir des fondations en béton, c'est d'avoir des fondations avec des pieux vissés métalliques dans le sol. Et donc, on va visser des pieux à peu près tous les 5 mètres. Et sur ces pieux, on va poser des poutres en bois et on va poser les structures qui intègrent les panneaux bois plus IPAC, murs, planchers, etc. sur cette ossature métallique. Ouais. L'intérêt, c'est qu'on n'a pas de béton. Donc, on va économiser du sable. On sait que c'est une grosse problématique, l'utilisation du sable. On va économiser de l'eau, idem, autre problématique. On va économiser du ciment. Troisième problématique importante actuellement, notamment dans la construction à l'échelle mondiale, on va utiliser de la ferraille, enfin on va économiser de la ferraille, pardon. Et l'intérêt d'avoir des pieux vissés métalliques dans le sol, c'est que on peut démonter totalement le bâtiment en fin de vie. C'est-à-dire qu'on va démonter l'ossature bois, on va récupérer le bois, on va démonter les panneaux IPAC, qu'on va pouvoir soit réutiliser, soit recycler. Et les pieux vissés métalliques, on va pouvoir les dévisser. Et comme on n'aura pas imperméabilisé le terrain, eh bien, on va retrouver la terre naturelle qui était là avant qu'on s'implante. Et l'autre intérêt de ces bâtiments zéro béton, c'est qu'on a toujours une lame d'air qui circule sous le plancher bas du rez-de-chaussée et qui permet de récupérer les eaux pluviales de la toiture. Ce qui fait que la parcelle absorbe autant d'eau pluviale qu'avant qu'on construise dessus. Et on peut remettre le terrain en état une fois qu'on est en fin de vie du bâtiment, tout simplement.
Donc, en fait, à Batikab, vous réfléchissez le produit, donc d'avoir un produit biosourcé qui soit fait en matériaux recyclés, mais vous pensez aussi à la fin de vie de vos matériaux, c'est-à-dire qu'est-ce que deviennent vos bâtiments une fois que l'utilisation est terminée.
Exactement, on essaye de penser global, pas seulement de penser à notre produit. Donc en résumé, c'est du carton qui est recyclé, qui est recyclable en totalité. Le polypropylène qui forme la membrane d'étanchéité autour du carton est issu du recyclage et totalement recyclable. Mais on fait en sorte que les bâtiments en fin de vie puissent être démontés. Et dans notre modèle de fabrication, on fait aussi en sorte de créer une économie locale et circulaire au plus près de la demande en proposant de réindustrialiser les territoires.
D'accord. Donc justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez prévu, on va dire, cette réindustrialisation, comment vous essayez de vous implanter au plus proche de la demande?
Alors, on a réfléchi sur trois strates différentes, et on se fait aider pour ça par trois partenaires majeurs qui sont à nos côtés depuis plus ou moins longtemps. Le premier partenaire, c'est le groupe DS Smith Packaging, qui est le leader européen du recyclage et de la fabrication de papier carton, donc qui ont entre 35 et 37 sites de fabrication en France. Eux fournissent du carton à leurs clients dans un rayon de 150 km à peu près par site, ils récupèrent ensuite le carton, le recyclent, etc. et peuvent recycler le carton 25 fois sur lui-même sans ajout de matière. Le deuxième partenaire, c'est le groupe Estille. Le groupe Estille est spécialisé dans le travail par l'insertion, par l'inclusion. C'est un partenaire important car c'est grâce à lui qu'on a développé notre ligne de production qui est low-tech et qui est adaptée à un public en situation de handicap mental, physique, sociétal, et qui, grâce à notre procédé, va pouvoir être mis un peu sur le devant de la scène et ressortir un peu de son exclusion. Et on va s'appuyer pour cela sur les structures d'insertion qui existent sur tout le territoire. Et notre ligne de production, qu'on a développée grâce au groupe Esti, est une ligne de production low-tech, totalement adaptée à ce personnel en situation d'insertion. Et donc l'intérêt, c'est d'aller monter des lignes de production qui coûtent moins de 100 000 euros et qu'on va mettre moins de 2 mois à monter au plus près des territoires et au plus près de la demande. Donc on va avoir DS Smith Packaging qui va fournir le carton localement, la structure d'insertion au plus près de la demande qui va fabriquer ces panneaux par assemblage, par collage, comme j'expliquais tout à l'heure. Et le troisième partenaire avec lequel on travaille, c'est Beehive, deux anciens de grosses entreprises nationales qui ont créé cette société de négoce et qui nous référence auprès des plus gros négoces français, notamment Point P par exemple. Et donc, on va pouvoir vendre nos panneaux au Point P local. Et le charpentier qui aura besoin de mettre en œuvre de l'IPAC dans ses ossatures, va pouvoir se fournir aussi localement.
Donc, c'est un matériau qui est quand même plutôt à destination des professionnels, en tout cas aujourd'hui.
Tout à fait.
Et les professionnels, ils doivent être formés ou pas à ce produit?
Alors, on s'adresse pour l'instant exclusivement à des professionnels, des charpentiers, des constructeurs, etc. Et ces professionnels doivent être formés par nos soins. Donc, on est organisme de formation, certifié Calliope depuis peu. Nous formons d'un côté les architectes, les prescripteurs, les bureaux d'études, maîtres d'ouvrage, etc. sur une journée plutôt théorique. Et nous avons une formation de 2 jours technique pour que justement les professionnels sachent comment on va recouper un IPAC, comment on va remettre la membrane si on coupe l'IPAC, comment on va intégrer l'IPAC dans une ossature. Et donc, dans notre atelier ici à Nantes, dans notre centre de formation, nous allons les former pendant 2 jours. Alors, en général, ils comprennent très vite comment on s'appuie sur les règles de l'art qu'ils maîtrisent et qu'on en diffère sur 2 points. En général, en 2-3 heures, ils ont compris le système. Mais c'est un point important pour nous parce que depuis 12 ans qu'on fabrique de l'IPAC et qu'il est mis en œuvre dans des bâtiments, on n'a aucun sinistre, aucune mise en cause. Et on tient beaucoup à conserver ce niveau d'exigence et avoir des professionnels qui soient vraiment impliqués, en plus d'avoir une conviction intime qu'il faut changer les choses.
Donc, pour résumer très rapidement, donc IPAC, c'est à la fois un matériau innovant et qui est biosourcé, fait en matériaux recyclés et qui est entièrement recyclable. Et en même temps, c'est un modèle de développement qui est vertueux, puisque à chaque fois, les points d'approvisionnement en matières premières, donc en carton, sont toujours dans un rayon de 100-150 km. La production est locale et s'implante sur les territoires et elle peut se désimplanter, on va dire, si jamais la demande s'épuise très rapidement.
Exactement. Alors, pour revenir au début, donc on est biosourcé en moyenne à 91%. On est labellisé produit biosourcé plus filière française par Caribati. En termes de dégagement de COV, on est A+. Donc, c'est un matériau qui est vraiment sain, qui est en plus facile à travailler, sans dégagement de poussière toxique, cancérogène ou autre. Ah, j'ai un trou, là. Il faudrait que tu refasses un... C'est un matériau qui est donc recyclé par DS Smith et qui est totalement recyclable. C'est d'ailleurs le seul matériau de construction qui bénéficie de lignes de recyclage mature. Donc ça fait plus de 20 ans qu'on recycle le carton. Dans toutes les déchetteries de France, il y a des bacs de recyclage de carton. Donc on sait exactement ce qu'on va en faire. Et comme tu disais, les lignes de production qu'on va mettre sur le territoire, on va les insérer dans des bâtiments existants avec du personnel d'insertion qui est déjà présent, qu'on va former. Mais le jour où il n'y a plus de demande sur le territoire, on va récupérer la ligne, mais on n'aura pas monté un bâtiment qu'on va laisser à l'abandon, on va pas créer une autre friche. On essaye d'être agile quand on vient s'insérer dans les territoires, mais aussi quand on va repartir du territoire. Et le personnel de l'ESAT, chez qui on aura mis notre ligne de production, restera salarié de l'ESAT et continuera à travailler dans l'ESAT. Donc on va pas créer de pauvreté en quittant le territoire le jour où on a besoin.
D'accord. Bah, merci Eva pour cette présentation du produit et de votre modèle de développement. Je propose maintenant qu'on passe sur la chaîne de production, comme tu le proposais.
Très bien. Notre ligne de production est installée dans un atelier d'un peu moins de 1000 m². Donc, on stocke la matière première qui arrive livrée par DS Smith, les plaques de triple cannelure. Et on stocke les IPAC une fois finies également. Donc, elle se décompose d'une première ligne avec ce qu'on appelle la table d'alimentation. Donc, c'est une table horizontale sur laquelle on va placer les plaques de carton triple cannelure vierges et qui vont passer dans une encolleuse.
Okay.
C'est une encolleuse à rouleau avec, à côté de celle-ci, un château de colle. Et la colle alimente l'encolleuse par gravité, tout simplement.
Okay.
Il n'y a pas de pompe. Le but, c'est d'avoir le moins de technologie possible. Pas de robot, pas d'électronique. Simplement deux machines électriques sur cette ligne.
Et donc, la colle que vous utilisez, elle est, je suppose, le moins toxique possible
Tout à fait. On utilise de la colle cellulosique alimentaire de deuxième contact pour éviter que le personnel, s'il met la main à la bouche, s'intoxique. Donc, il peut en ingérer, mais il faut qu'il évite de le faire trop souvent. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème de santé par rapport à ça. Donc, la plaque de carton, triple cannelure, va passer entre les deux rouleaux et va donc recevoir de la colle sur sa face inférieure et sa face supérieure.
Okay, des deux côtés.
Exactement. Quand elle sort de l'encolleuse, on a une table avec des roues de roller qui permettent de la faire rouler jusqu'à ce qu'on appelle la table à angle.
Okay.
Dans la table à angle, on va avoir deux opérateurs, un de chaque côté. Et chaque opérateur va positionner une première plaque de carton vierge sur la table.
Okay. Non encollée, du coup.
Non encollée, exactement. Et va récupérer la plaque de carton qui sort de l'encolleuse, encollée sur les deux faces.
D'accord.
Il va la positionner sur la feuille vierge. Et ensuite, il va reprendre une autre feuille vierge qu'il va positionner sur la feuille encollée.
Ok. Et il va faire ça autant de fois qu'il faut pour monter...
Tu as tout compris. Voilà. Donc, il va faire 5, 10, 15, 20, 25 cm, etc. Une fois qu'il fait ça, on ouvre ce volet à l'extrémité de la table à angle. On fait circuler le panneau de carton qu'on a assemblé, et on va le mettre sous une presse.
D'accord.
Donc, c'est une presse cylindrique à ressort, très basique. Okay. C'est pas du tout électrique, c'est que mécanique. Et là, les panneaux vont rester environ 10 minutes sous la presse.
Okay.
Donc, 5 minutes sur une première partie ici, 5 minutes sur la seconde, pour que la colle puisse prendre.
Okay. Et ce qui diffère des deux presses, c'est la pression, en fait, j'imagine.
Non, en fait, on a multiplié les deux, parce que le temps de monter un panneau, c'est à peu près 5 minutes.
Okay.
Donc, le panneau qu'on a mis sur la table à angle va pousser le premier panneau qui se trouve sous la presse et va l'envoyer sous la deuxième partie de la presse. Okay. C'est juste pour multiplier le temps de presse, d'accord, tout simplement.
Pour les auditeurs et auditrices, du coup, les tables, c'est comme des rouleaux, comme à la caisse en fait, de supermarché. C'est des rouleaux pour faire passer plus facilement les panneaux.
Voilà, c'est une structure métallique à peu près à 1 mètre de hauteur avec un lit de rouleaux. Donc cylindrique forcément, rouleau à billes, qui vont permettre de faire coulisser les panneaux d'un poste à l'autre, tout simplement. Après la presse, on a la découpe. Donc ici, le fait de pousser les panneaux depuis la table à angle là-bas,
ouais,
les pousse dans la presse,
ouais,
et après ça les pousse sur le chariot de la découpe.
Ok.
Et pourquoi on découpe ? Parce que DS Smith nous fournit des plaques de triple cannelure qui sont hyper précises en largeur. Mais en longueur, comme elle sort d'une dérouleuse, il y a toujours 10 à 15 mm de trop. Et donc, pour avoir une coupe hyper précise, on va rectifier nos panneaux et couper ces 10 à 15 millimètres en trop.
Donc là, en fait, le panneau vient se mettre en butée, j'imagine.
Exactement. On vient le caler en butée à l'extrémité du chariot.
Et après, il y a la scie qui,
voilà,
qui passe tout droit.
Avant ça, on a un volet qui permet de bien caler le panneau en butée. Une fois que c'est fait, on pousse le chariot sur ses guides et ça permet de passer le long de la scie à ruban. Et la scie à ruban va découper les 13 mm en moyenne qui sont en surplus. Exactement.
OK. Et après, c'est fini?
Non. On arrive bientôt à la fin de la première phase. Une fois qu'on a ça, le rouleau arrive en butée. On fait rouler les panneaux IPAC. Donc, ils sont toujours à l'état de carton brut sur une autre table. On les stocke provisoirement à cette extrémité. Et c'est la fin de la première phase.
D'accord.
Mais tu t'en souviens, Camille, c'est important que l'air soit immobile dans le carton.
Donc, il faut une membrane de
polypropylène. Exactement. Maintenant, il va falloir enfermer les ondulations, les alvéoles d'air pour que l'air soit immobile. Et pour ça, on passe à la deuxième phase. Alors, dans l'idéal, on aurait aimé que cette deuxième phase soit en continuité directe de la première.
Oui.
Mais comme l'atelier n'était pas forcément aux bonnes dispositions géométriques, on s'est aussi adapté à l'existant.
On s'est adapté au bâtiment aussi.
Ce qui n'est pas très grave non plus. Alors, sur cette table de pelliculage ou d'enveloppage, on va positionner notre membrane sur la table. Donc, c'est une membrane qui est pré-pliée, pré-coupée, pré-logotée.
OK. Oui.
Tu vois, comme ça.
En fait, vous les commandez.
On les commande, voilà. Alors, chaque panneau IPAC a sa membrane spécifique.
OK.
Par exemple, là, on a une membrane qui fait 10 cm d'épaisseur. Si on a un panneau qui fait 5, on va prendre la membrane spécifique pour le panneau de 5. Normal. Donc, une fois qu'on a positionné la membrane sur la table, on vient envoyer de la colle dessus.
OK.
Et on va ensuite mettre un panneau IPAC brut, dont on a parlé précédemment, sur la membrane.
D'accord. Et la colle que vous envoyez sur la membrane, c'est la même que vous utilisez pour l'encollage?
Ça, c'est la colle qu'on appelle hot melt,
okay,
issue de l'aéronautique, qui est nécessaire et qu'on met là-dessus parce qu'elle est à prise directe. C'est-à-dire qu'une fois qu'on plie, la membrane, elle est collée.
Okay.
Là, on ne pouvait pas se permettre d'attendre 10 minutes que chaque élément soit collé. Okay. Donc ça, c'est la colle qu'on appelle hot melt, c'est la colle à chaud, en fait. Et donc, on met le panneau sur la membrane et après, on replie la membrane sur le panneau, donc sur les côtés et en retour sur la face visible.
Okay, oui.
Donc, sur les quatre tranches et en retour sur la face visible supérieure. Une fois que c'est collé, on va positionner les panneaux sur une palette en sortie de la table, les uns sur les autres, et on va coller dessus des étiquettes d'information sur le dessus et le code-barre sur la tranche. Donc, le code-barre sur la tranche a été vu avec Beehive, notamment, pour que les négoces puissent facilement le lire quand ils vont le stocker chez eux.
Et après, c'est prêt à être envoyé?
Pas tout à fait. C'est presque prêt à être envoyé. Donc, les palettes sont stockées. Et avant d'être envoyées, on va les pelliculer de plastique pour les protéger.
Okay.
Le temps du transport, du stockage, etc. On peut pas les envoyer brutes comme ça. Et on va les sangler aussi, pour éviter qu'elles se disloquent pendant le temps du transport ou du chargement.
OK. Et donc, une fois que c'est sanglé, c'est prêt à être envoyé dans les points de vente.
C'est prêt à partir. Et donc, ça va chez Point P, chez d'autres négoces. Et c'est stocké chez eux et vendu aux charpentiers localement après, comme n'importe quel produit de construction.
D'accord. Eh ben, merci pour ces explications.
Avec plaisir.
Qui étaient très claires, en tout cas pour moi, et j'espère pour nos auditeurs et auditrices. Et puis ben merci pour aussi la présentation de votre modèle et de votre produit qui est, les deux sont très innovants et très intéressants.
Ben c'est un plaisir. Si on peut faire connaître ces nouvelles façons de construire pour changer un peu les choses, nous serons toujours disponibles.
Ben merci beaucoup et
merci
à bientôt peut-être.